Mardi 21 février, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous à l'animation et je suis accompagnée, bien entendu, de Jacques Gignac à la mise en onde. Cette semaine, il se passe quand même beaucoup de choses dans l'émission, notamment Jean-Pierre Gay va venir... Mon Dieu, je viens de bafouiller de manière, ma foi, fort intense. Jean-Pierre Gay va venir nous faire un retour sur les installations du mois multi qui se termine là, d'ici 8 jours. Catherine Boivin est allée faire un tour au lieu. Elle va nous parler de l'exposition Bleu Suède Drone de David Noe. Ça me paraît, ma foi, fort intéressant. On discute également avec Dan Bro qui nous présente Toi et moi version 1.2 dans la galerie, dans la grande galerie de l'œil de poisson. Revue de presse nous fera son Raymond Poirier, oui. Bonjour Raymond.
Bonjour.
J'ai inversé, bien entendu, Raymond Poirier nous fera la revue de presse.
Et quelques regards à l'international cette semaine, des concepts d'expo, un peu de controverse également.
Mais avant tout ça, bien entendu, on écoute les suggestions de Simon Roy. Bonjour Simon.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. J'ai encore de la bonne musique pour les auditeurs cette semaine.
Ben oui, parle-nous-en donc.
C'est un album qui m'a accroché un large sourire dans la face. L'artiste s'appelle ABC 100. J'en avais déjà parlé décembre passé. Donc, il vient tout juste de sortir un nouvel album. Son album s'appelle Exit Sight. C'est un étudiant en littérature. Il demeure à Moscou. C'est à peu près tout ce que j'ai comme information à propos de l'artiste. Il est vraiment low profile, comme on dit. Donc, il a fait un album qui s'inspire de la structure littéraire. Donc, c'est toujours relié à la littérature, puis tout ce monde-là. Moi, je vois pas ça du tout dans son album. Mais, donc, c'est ça fait des albums vraiment hétéroclites. Collage sonore, glitch, field recording. Il travaille aussi avec la voix. Donc, musique électronique, ça peut être pop par moment, ça peut être trash par d'autres. Un album vraiment, vraiment intéressant. Je pense que c'est une belle découverte cette semaine.
Et il dit s'inspirer, en fait, de la structure littéraire parce qu'il y a une narration, parce qu'il y a une progression.
Oui, c'est ça. Lui, c'est pas tant le récit qui l'intéresse, c'est plus la structure pour arriver au récit. Donc, que les effets littéraires pour réussir à gagner les lecteurs. Donc, je pense que c'est ça qui l'intéresse plus que les histoires en tant que telles.
D'accord. Puis, tu nous as choisi 4 pièces les plus représentatives?
Oui, c'est ça. 4 pièces quand même assez différentes. La première se nomme Caribou 666 One Big Mode.
Ça se dit de manière fluide, hein?
Oui, c'est super facile à prononcer. La seconde s'intitule Grey. Après ça, c'est Girl. Puis, enfin, la quatrième pièce, Hip. Vous allez voir, un album vraiment spécial. C'est sur l'étiquette Edphonica, une étiquette allemande vraiment géniale. Ils ont toutes sortes d'albums complètement pétés dans toutes sortes de styles. Ils ont à peu près 95 albums à proposer en téléchargement gratuit.
Quand même.
Donc, ils ont même un album qui dure 15 heures. Donc, ça va être un peu drôle d'étiquette.
Eh bien, Simon Roy, merci beaucoup pour cette suggestion.
Ben, merci.
Puis on t'écoute à Web Musique dès 20h ce dimanche.
Exactement.
On se met tout de suite une pièce en oreille. On écoute Caribou 666 One Deck Mode sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre un extrait de l'album Exit Site de ABC 100. C'était une suggestion de Simon Roy qui disait que ça lui avait collé un sourire au visage. Ben, je comprends parce que j'en avais un aussi. Et voilà, c'était mon petit moment d'émotion vis-à-vis de la pièce qu'on vient d'entendre. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'artiste, l'album, si vous voulez télécharger les pièces, tous les liens sont sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Et de ce pas, je cède le micro à Raymond Poirier.
Et on s'intéresse pour le premier segment de la revue de presse à une petite controverse en Espagne, du côté de Madrid. J'ai l'impression que c'est assez régulier qu'on parle de controverse, surtout quand on parle d'œuvres d'art contemporain qui s'intéressent à la chose religieuse. Par contre, celle-là, j'avais envie de la mentionner parce que également, ça ouvre un autre type de débat que les autres œuvres, dans la mesure où l'objectif de l'artiste qui s'appelle Bruce LaBruce était essentiellement de provoquer, justement, de créer des réactions de la part de l'intelligentsia catholique de l'endroit. Il a atteint son pari puisqu'il y a notamment l'Apostolado Eucharistico et plusieurs autres associations assez conservatrices de l'endroit qui ont appelé à boycotter l'exposition, qui ont manifesté, qui ont entré un peu dans le jeu de l'artiste qui, pour justement susciter ses réactions, a photographié un acteur nu posant avec l'image du Christ en croix de Velázquez sur ses parties intimes, des artistes connus figurant des nonnes sexy en talons aiguilles, etc., etc. Donc on voit un peu le genre d'exposition. Et je me demandais, en fait, est-ce que c'est d'intérêt, en fait, de faire de la provocation pour essentiellement de la provocation? L'exposition s'appelle quand même Obscenity, donc ça donne le ton.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une démarche derrière cette provocation-là ou ça se fait juste gratuitement, dans le fond? Là?
Puis on voit les associations religieuses qui, essentiellement, entrent dans ce jeu-là. Oui. Alors, bon, des petits problèmes, des petites questions autour de ça. Je vous les lance comme ça, sans plus d'interprétation. Bien entendu, vous pouvez voir les photos et l'article via le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com.
Vous pouvez d'ailleurs y réagir et laisser un commentaire si l'envie vous en prend.
Parallèlement, une démarche que j'ai pas trouvée inintéressante, c'est disponible sur le web, en fait, c'est un artiste plasticien français qui s'appelle Christian Boltanski, qui a décidé d'offrir des œuvres d'art sur abonnement. Donc, essentiellement, on peut s'abonner, c'est des abonnements d'un an, c'est 120 € par année pour s'abonner à ce service d'œuvres d'art-là, entre guillemets. Donc, 120 €, on parle peut-être de $200 canadiens. Et l'idée, c'est que l'artiste, lui, 10 fois par mois, va envoyer un vidéo de lui-même même à ses abonnés.
Et 10 fois par mois,
donc pour 120 vidéos pour l'année. Donc quand même un gros pari. Et au terme de cette année-là, au terme de l'abonnement, ben, les vidéos sont à la fois propriété de l'artiste et propriété de l'abonné aussi. Donc droit légalement de les garder. Les vidéos, ça va être des films originaux d'une minute chacune qui vont constituer avec le temps une sorte d'autoportrait en creux montrant les rencontres et les émotions de l'artiste. Donc essentiellement, on s'abonne à ce qui est un peu un blog intime vidéo créée par cet artiste-là. Donc, ça risque d'être intéressant de voir comment ça va se développer au fil de l'année, surtout que l'artiste dit, ben, regardez, moi, ce que je veux faire, c'est pour le reste de mes jours. Donc, ouais. c'est pas limité à 2012, mais ça sera prolongé aussi si l'intérêt est là, évidemment. Là,
mais ça pose quand même la question des droits. Si chaque personne qui s'abonne devient propriétaire de cette vidéo-là, il en fait ce qu'il veut. Donc, en tout cas, je ne sais pas.
Il y a d'autres questions à soulever.
Oui, encore, toujours. Hein? Dans notre pile, on en a une belle grosse. Là.
Et quand on farfouille dans l'actualité culturelle, l'actualité artistique, cette semaine, c'est un peu incontournable. On entend parler d'Ai Weiwei, donc cet artiste contestataire chinois qui a obtenu une libération de prison, en fait, pour aller exposer à Paris, a été libéré sous caution le 22 juin. Et c'est autour de son exposition à Paris, et on en parle beaucoup parce que, somme toute, c'est assez rare que l'artiste soit directement accessible. Bien entendu, directement, c'est un grand mot parce que pour obtenir sa permission de sortie, il n'avait pas le droit de rencontrer la presse. Ça ne l'a pas empêché de donner quelques entrevues à l'occasion de cette exposition-là. On en retrouve plusieurs via les réseaux de presse. Il y en a un très intéressant aussi sur Libération. Il a même parlé à Paris Match. Donc, il parle essentiellement à tout le monde, même s'il n'en a pas le droit. On espère qu'il n'y aura pas trop de conséquences autour de ça à son retour au pays. Et on en profite pour revenir aussi beaucoup sur la démarche de cet artiste-là qui s'était fait connaître en 94, notamment 5 ans ans après les événements de Tiananmen, où il avait photographié sa fiancée sur la place. Une banale photo touristique à un détail près. La jeune femme avait relevé sa jupe, laissant voir sa culotte. Derrière elle, portrait de Mao, garde en uniforme. Donc, quand même assez iconique comme image. Et donc, c'est beaucoup de réflexions aussi sur la Chine, la question des droits de l'homme, des droits des artistes aussi, des droits de s'exprimer dans un contexte qui n'est pas nécessairement facile. Sinon, on revient plus près de nous, au Canada, en fait, c'est une exposition qui s'appelle Au Canada, en fait, qui est présentée au musée Mass-Moca du Massachusetts. Je trouvais ça intéressant. C'est un premier portrait général de l'art canadien qui est offert aux États-Unis. La commissaire de l'exposition, Denise Marconiche, s'était rendue compte à un moment donné qu'elle connaissait de nom quelques artistes canadiens, mais qu'elle n'était pas si familière que ça avec l'art de ses voisins du Nord. Alors, elle a décidé d'organiser une exposition regroupant 100 œuvres de 62 artistes de presque toutes les régions du Canada. Donc, si vous passez par le village de North Adams au Massachusetts, vous allez pouvoir voir cette exposition-là du 27 mai au 1er avril. Parmi les 62 sélectionnés, on parle notamment de BGL, de Diane Landry, de d'autres, Valérie Bass, Nicolas Bayard, donc selon les horizons de connaissances que vous avez du milieu des arts visuels canadiens. Alors, une initiative intéressante.
Mais oui, c'est une belle nouvelle.
Oui, surtout qu'on parle vraiment là, d'art contemporain canadien, pas les rétrospectives là, des artistes d'avant 1950, là, mais vraiment ce qui se fait présentement. Et 62 artistes, on offre quand même un bon panorama. Et en terminant, petite mention au passage, si vous rendez à Montréal, il y a l'événement Art souterrain qui débute le 25 février prochain, qui va se poursuivre jusqu'au 11 mars. Quand même un gros événement, on parle d'à peu près un circuit artistique de 7 km au cœur des réseaux souterrains montréalais, avec plusieurs activités, énormément d'artistes aussi qui y participent. Il y a 140 projets qui vont être présentés cette année, unis sous le thème des lieux de passage, donc une thématique qui, nous dit-on, est une invitation à revisiter et à s'interroger sur les lieux de transit que sont les couloirs de l'espace public, ainsi qu'à explorer les relations qui existent et le dialogue qui prend forme entre l'œuvre et l'individu à l'issue d'une rencontre qui est portée par le fruit du hasard. Alors, c'est dans les corridors de Montréal et la programmation va être disponible via artsouterrain.com.
Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Vendredi, tu reçois ton émission?
Oui, Julie Doucet, qui est de l'exposition actuellement à l'œil de poisson. Alors, en complément à l'entrevue que tu vas réaliser dans quelques instants avec Dan Bro, vendredi, on aura l'occasion de discuter avec celle à qui on doit l'entrée vidéo.
Mais voilà, on t'écoute dès 17h30 ce vendredi. On s'en va en pause, on écoute Grace sur les ondes de CKRL. C'est une suggestion de Simon. Écoutez toujours l'aérospatiale et on est allé faire en fait semaine un tour à l'œil de poisson pour me ramener avec vous, avec nous, Dan Bro, pour nous parler de son exposition. Bonjour.
Salut.
Ça va bien?
Oui, merci, toi.
Gros oui, gros vernissage vendredi, hein?
Oui, ben beau vernissage, c'est super le fun. Beaucoup de monde, mais je pense que le mois multi a joué son rôle aussi dans le nombre de gens qui sont venus. Mais oui, c'est un beau vernissage, c'est super le fun.
Tu nous présentes « Toi et moi » version 1.2, donc ça le dit, c'est pas la première version. Tu avais présenté ce travail-là aux Émirats Arabes Unis.
Oui, au mois de mars 2011, lors de la Biennale d'art contemporain de Sharjah, la ville de Sharjah, qui est la ville voisine de Dubaï. Donc c'était un projet qui a été fait spécifiquement pour cette exposition-là que j'avais eue en mars. Et puis, j'avais le goût de la présenter au Québec, au Canada, bien entendu, puisque je pense pas qu'il y a beaucoup de monde d'ici qui l'avait vu.
Non, je pense pas.
Donc, j'ai eu la chance de pouvoir la présenter à l'aide de poisson. Puis, je me suis dit, tant qu'à présenter la même exposition, j'ai une nouvelle salle, j'ai un nouveau lieu dans un autre contexte, je vais quand même changer des paramètres. Fait que c'est la version 1.2, c'est-à-dire que je prends les mêmes tableaux, essentiellement. Il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites
sur le
niveau de l'espace, au niveau des tableaux. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme presque la même chose, mais c'est pas la même chose.
Dans un contexte différent,
vraiment différent,
vraiment,
ouais, oui, vraiment
adapté. Ouais. Peux-tu nous en parler? Parce que là, tu joues beaucoup sur la répétition, sur des images,
ouais.
Le lien et des images aussi avec leur contexte d'exposition.
En fait, c'est qu'au départ, quand j'ai fait les œuvres pour l'exposition 1.1, si on veut, au musée à Sharjah où j'étais, j'avais deux salles de musée qui faisaient face l'une à l'autre.
Ah, quand même, hein?
Donc, j'ai décidé de jouer sur l'idée de symétrie, même si c'est un peu grossier peut-être, là, mais je me suis dit, ah, ben, tant qu'à ça, là, du coup, je fais deux expositions différentes. L'idée étant de partir avec des prémices de base qui étaient les mêmes, c'est-à-dire des tableaux qui allaient faire une genre de symétrie, mais donner deux expériences différentes. Donc, les murs étaient peints de façon différente, les tableaux avaient certaines petites différences aussi. Donc, en jouant le jeu de dualité, si on veut, on peut le spectateur commencer à faire la comparaison, mais finalement, on se fait prendre au jeu puis on commence à regarder la peinture. Donc, ce que j'ai fait à l'œil de poisson, partant de cette idée-là, je me suis dit, mais je vais diviser aussi la grande salle de l'œil de poisson, puisque c'est une salle qui est très, très grande.
Oui, bien là, tu n'as pas fait de miroir, là.
Non, bien là, c'est côte à côte, en fait. C'est ça. C'est au lieu de les mettre face à face, je les mets côte à côte. Mais c'est pas des miroirs identiques non plus. Il y a une perte d'informations, des transformations dans le miroir. Mais ça reste que c'est un jeu. C'est-à-dire que dans les tableaux, par exemple, il y a un tableau avec des grenouilles, mais tu as deux grenouilles qui sont identiques, comme deux clones. Ensuite, tu as deux tableaux de grenouilles. Enfin, il y en a un qui a des grenouilles rouges, l'autre qui a des grenouilles jaunes.
Ouais,
ensuite,
tu
as des portraits. Une portrait d'une jeune femme, portrait d'un jeune homme, qui dans une salle ressemble à ceci, dans l'autre, c'est presque identique.
Oui, ça en fait dans la salle, je dirais, il y a une salle grise puis une salle verte, si je ne me trompe pas.
Exact.
Ça a l'air un peu plus officiel, un peu
plus
austère, alors qu'il y a un côté vraiment joie de vivre
funky,
qui ressort
c'est
dans
ça.
Le vent.
Ben, c'est ça. Donc, c'est tout. Toute l'idée, en fait, venait de ma réflexion sur la peinture. En fait, où se situe la peinture? Est-ce que c'est dans le tableau? Est-ce que c'est les deux tableaux côte à côte? Est-ce que c'est l'installation dans une des deux salles? Est-ce que la couleur sur les murs fait partie de la peinture? Donc, c'est tout, en fait, l'expérience de ce qui devient la peinture. Parce que il y a comme tout un design, une mise en scène. C'est assez théâtral aussi, là, avec l'éclairage. Donc, il y a toute une mise en scène qui a été faite autour de l'exposition.
Et finalement, est-ce que tu trouves que tu as ta réponse? Parce que moi, quand j'ai regardé les œuvres, je ne percevais pas de la même manière. Tu sais, comme il y en a une grande avec de l'aluminium, je crois, où il y a un signe un peu géométrique qu'on perçoit comme étant presque un emblème de propagande,
quelque chose
d'un côté.
Ouais.
Alors que de l'autre côté, dans le côté vert, c'est soudainement, ça a l'air, comme tu disais, plus funky. Donc, on voit vraiment que ça influe sur notre perception.
Si je l'ai fait, en quelque part, c'est ce que je pense que. Que la peinture, justement, c'est pas juste un tableau sur un mur, c'est-à-dire qu'il y a tout plein de facteurs qui jouent sur notre perception, sur la façon qu'on va percevoir. Donc, je me dis qu'en tant que créateur, ben, je n'étais pas obligé, mais moi, ça me tente de jouer avec cette chose-là. Dans cette exposition-là, c'était très démonstratif, en fait. C'était comme un peu une certaine forme de d'étalage, en fait, de toutes les stratégies qu'on peut utiliser. C'était le trip aussi d'y aller vraiment à fond là, avec tout ce que je pouvais. Dans d'autres expositions que j'ai faites, il reste toujours que cette notion-là, cette idée-là reste. C'est-à-dire que c'est une préoccupation que j'ai dans mon travail. Là.
Mais dans l'exposition aussi, tu as ce que j'appellerais peut-être des pastilles de couleurs qui dévorent des œuvres. Oui, les Smarties. C'est comme ça que tu les appelles.
Non, mais Josiane Deloge, dans le salaire des années, les Smarties, je trouve ça cool. Hein.
Oui, c'est vrai, ça fait un petit peu. C'est cute. Donc, on en voit aussi un peu de ces formes-là. Est-ce que c'est une manière pour toi de dire justement la peinture déborde l'objet physique?
En fait, ces espèces de petites pastilles-là, ça devient en fait plusieurs choses. Ça devient un peu une façon de pouvoir venir dessiner sur les murs avec des couleurs. En fait, les taches qu'on retrouve dans les tableaux, mais ils finissent par être des formes qui sont des tableaux eux-mêmes, qui se détachent des tableaux puis qui deviennent des espèces de taches. C'est une façon aussi de venir défaire l'ordre des tableaux qui sont tous accrochés de façon très conventionnelle, à le centre à 150 cm. Fait que les passés, les autres viennent un peu dire, on n'est pas obligé d'accrocher ça de façon...
Et puis avec la forme ronde aussi.
Ouais, c'est ça. Fait que ça devient comme un peu des genres de petits ovnis qui tournent autour, des genres de petits morceaux de pollen qui viennent se polliniser d'un à l'autre. Donc, il y a un côté un peu... Je suis pas polisson, mais tu as un petit côté un peu...
Un petit côté canin, bordel.
En même temps, ils ont un côté super design. Il y a un côté, tu sais, les pastilles, je les mets ensemble. Il y a les couleurs aussi, le jeu des couleurs crée que dans le fond, fait que la salle, les murs deviennent aussi des genres de tableaux en soi. C'est-à-dire que le mur avec un tableau, avec les pastilles, avec la couleur, devient aussi des tableaux en soi. Fait que ça me servait à ça, en fait, ces pastilles-là. Mais aussi, je les considère pour moi comme des tableaux au même niveau que les autres, c'est juste qu'ils ont une fonction différente, en fait.
Mais finalement, dans ton exposition, on se trouve plus dans une installation, dans une exposition de peinture traditionnelle, là, parce que c'était vraiment tout pensé, là, dans ce sens-là.
Ben, je pense que oui. Je pense que moi, je vois ça comme une installation, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est drôle, on est vraiment au cœur, dans ton exposition, on est vraiment dans ta peinture. Puis je lui demandais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis il dit, on est vraiment comme dans la peinture, c'est-à-dire qu'on est, comme spectateur, on est immergé là-dedans. Puis c'est vrai qu'en En fait, quand j'y pense, ça devient une espèce de tout, en fait. Puis oui, je pense que ça se voit plus comme une installation de peinture, malgré qu'on peut s'attarder à regarder un tableau à la fois, puis vraiment regarder ça comme une expo de peinture traditionnelle. Là. Mais je pense que, veux pas, t'es toujours tiraillé entre l'expérience plus classique, puis une espèce d'installation qui nous fait tourbillonner, genre d'une salle à l'autre, en fait.
Oui, puis en plus, on s'entend, si on se place exactement à la lisière de la cimaise en milieu de la galerie, là, on peut vraiment, avec la vision panoramique, s'amuser aussi. Là.
Puis j'ai aussi deux petits tableaux qui sont un petit peu à l'extérieur des deux salles, qui sont comme le mur en face des deux salles, c'est deux petits tableaux noirs. Qui sont un petit peu énigmatiques, sont très sobres par rapport au reste. Pour moi, c'était un peu comme des... En fait, ces deux tableaux-là aussi sont un peu une genre de fausse symétrie l'un de l'autre. C'était vraiment comme une espèce de dessin très, très primaire, très griffonné, un peu trash. Un peu un genre de schéma de la pensée de l'exposition au complet, en fait. Fait que c'est une drôle d'expérience, en fait, je pense que je propose. Mais ce qui est cool, c'est qu'à cause de ce jeu de dédoublement-là, je pense que les gens se font prendre au jeu à commencer à comparer d'une salle à l'autre. Puis en faisant ça, ben en fait, tu es en train de regarder de la peinture, tu es en train de perdre ton temps ou bonifier ton temps, blanc ça comme on veut, mais en regarder de la peinture. Donc, tu n'es pas en train d'analyser nécessairement chaque tableau.
Ben oui, c'est ça.
Fait que tu penses que... C'est un piège qui est un peu grossier, mais en même temps, je pense qu'il fonctionne bien, d'après les commentaires que je peux avoir eus, en fait. Là.
Mais tu joues aussi avec les spectateurs, je veux dire, dans ton travail, tu sais, il y a quand même plusieurs influences qu'on sent. Tu sais, il y a beaucoup, les années 50, moi, je vois le cinéma de série B, la science-fiction, comme toute une esthétique que tu viens contredire avec un autre type de tableau. Ouais. Puis tu joues comme ça, peut-être à nous faire perdre nos repères, dans un sens?
Oui, mais je te dirais que c'est pas l'idée n'est pas tant de taquiner le spectateur ou de le débalancer. C'est pas nécessairement ça mon but. Moi, comme créateur, j'ai besoin d'avoir cette liberté-là de pouvoir passer d'un à l'autre. Je considère pas que j'ai un langage précis, tu sais, unique. J'aime ça m'attarder à faire des tableaux très géométriques, après ça passer à un truc plus science-fiction. Ça fait partie de ma façon d'être comme artiste. Puis moi, j'essaie d'en rendre compte dans mes expositions, puis j'essaie de trouver une solution à chaque fois de comment je vais me présenter cette personnalité-là comme artiste qui est très multiple. Donc oui, je pense que ça peut être déstabilisant pour les spectateurs parce que justement, quand on voit une exposition de peinture, en général, on s'attend à un langage en particulier puis qu'on va voir peut-être une quinzaine de tableaux dans ce genre-là. En général, dans mes expositions, ça arrive, mais en général, c'est pas ça le cas. C'est-à-dire que je m'amuse vraiment à challenger cette idée-là. Mais pour moi, cette façon de penser la peinture et de la présenter, ça joue aussi justement sur la façon qu'on va les voir. Donc, un tableau géométrique, s'il est présenté à côté d'un tableau plus gestuel, mais c'est pas la même chose que s'il est présenté avec 10 autres tableaux géométriques.
Ouais, ouais.
J'affirme pas les mêmes choses, en fait.
Ça crée un dialogue, en fait, là, carrément, ouais. Entre les œuvres, puis entre les styles aussi.
Oui, ben c'est ça. Je pense que ça nous amène à réfléchir autrement que, OK, là, il a mis du rouge, puis là, il a mis du jaune, puis, tu sais, de... C'est comme, en fait, je pense la peinture de façon peut-être un petit peu plus, pas large, mais plus comme un survol, en fait, de la peinture, et non pas comme mettant un truc ultra précis sur tel langage. Fait que, dans le fond, ma réflexion sur la peinture ou ce que j'ai à dire comme artiste, c'est comme une vision qui est peut-être un petit peu plus... un peu plus élargi que ce qu'on est habitué de voir. C'est pas nécessairement mieux, c'est pas nécessairement moins bon, là. C'est juste... en fait, c'est comme si ma lentille était un petit peu plus... à voyer plus loin ou plus large.
Tu avais plusieurs sortes de lunettes aussi.
Ouais,
là,
c'est ça. Moi, je dis toujours que c'est comme, ben, tu sais, comme individu, comme personne, on est appelé à différentes personnes, même si t'es toujours la même personne.
Ouais, toutes les facettes de nous-mêmes.
Ben, t'es une amoureuse, t'es la cousine de, t'es la fille de, tu sais. Fait que, ben, même chose pour moi, comme artiste, ben, il y a des journées où je suis peut-être plus le petit gars que j'étais quand j'attrapais des grenouilles dans le lac. Après ça, j'étais de le goût de. Puis je me tapais un trip intello de calculer mes hard edge avec des, tu sais.
Ouais, ouais.
Ça répond à plusieurs facettes que je pense qui sont normales chez un individu. Puis je déteste un peu me caser là, dans... Donc ça me je trouve ça difficile de choisir. Là,
Tu te gardes une liberté aussi,
ouais,
là,
carrément. Ouais, ouais. Ben, pour moi, c'est essentiel, la liberté en création, mais elle peut venir de différentes façons. T'sais, je dis pas que quelqu'un qui fait pas ce que je fais n'est pas libre. Là. Chacun se donne. Mais
ben
moi j'ai besoin
aussi,
de ça. C'est ça. Ouais, exactement. C'est très personnel. Moi, j'ai besoin de cette espèce de polygamie-là, de forme et de tableau. Puis, en fait, je pense que ça répond. Peut-être que j'ai une certaine forme de c'est pas schizophrénie, mais une espèce de tu sais, bon, j'ai de la misère à me concentrer sur une chose. J'ai besoin de pouvoir toucher à tout. Puis en même temps. Chacun de ces langages-là répond à un besoin chez moi, puis me permet d'aller ailleurs dans mes autres formes, dans le fond. Fait que c'est comme, il y a comme tout un jeu de comment je pourrais dire, d'échecs, si tu veux, en
ouais,
pratique,
ouais.
Là, qui se joue, là, puis qui me permet d'aller plus loin dans chacun de ces langages-là. Là. Fait que, ouais, c'est une façon, c'est ma façon à moi, mais je veux dire, c'est voulu, c'est pas voulu, c'est-à-dire que ça vient de même. Là.
Ça vient comme un besoin,
ouais.
Une nécessité.
En fait, j'aurais aimé pas être comme ça. J'aurais préféré, ça fait longtemps, depuis que je suis au bac, j'aurais préféré avoir une démarche plus...
orientée,
ouais,
dans une direction.
Plus focus, puis bon, par la force des choses, j'ai réalisé que j'étais pas comme ça, fait que...
Ben, c'est en fait ta particularité aussi, hein, quand même.
Ben, maintenant que je l'embrasse, que je l'accepte, oui, mais ça a été... ça n'a pas toujours été facile. Ben, pas que c'était difficile, mais... Ça n'a pas toujours été... j'ai pas toujours...
Facile à endosser,
ouais,
puis
exact.
Assumer.
Puis avec le milieu de l'art, le marché de l'art, c'est pas toujours évident non plus, fait que... Je marche des fois sur des coquilles. Je peux être éclectique, mais jusqu'à quel point le monde va me suivre là-dedans. Fait que faut que je fasse attention quand même, là. Mais en même temps, c'est ça, c'est là le plaisir aussi. Là.
Ouais, ouais. Mais écoute, Dan, c'est une réflexion à suivre.
Oui, ben, je vous invite à venir voir l'expo.
Ben oui, toi et moi, version 1.2 présentée à l'œil de poisson jusqu'au 18 mars. Dan Bro,
exact.
Merci beaucoup.
Ben, ça fait plaisir, Julie.
On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Catherine Boivin.
Pour sa prochaine activité. Le Ciné-Club Spirafilm vous propose l'émotion sur grand écran. Le 27 février 19h, à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou, voyez Valse avec Bachir, d'Harry Folman, un film d'animation bouleversant présenté à Cannes en 2008. La séance sera précédée du court-métrage Le Dernier au revoir de Nathalie Tanou. Invitée, Karine Boulanger, programmatrice à la Cinémathèque québécoise. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socio-culturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, la boîte à pain, le bal du lézard et CKRL.
Programmation, écoute en direct, actualité, palmarès musical, téléchargement, clavardage et plus encore. CKRL.qc.ca. Toute l'information que vous recherchez sur votre station. CKRL.qc.ca. Cultivez vos goûts grâce au 89.1.
Chaque mardi et vendredi, les soirées de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Semblable à l'image du 89.1, le Bal du Lézard fait dans la diversité colorée. Un lieu de rencontre culturelle branchée, art et musique. un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les soirées du mardi et du vendredi à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 88 529 3829. Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par G. Chomel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Vous écoutez CKRL 89.1. Présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 88 529 3829.
Toujours l'aérospatial, Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30, accompagné de Jacques Gignac à la mise en onde et vient de nous rejoindre Catherine Boivin. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour Julie.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Oui, tu es allée faire un tour au lieu?
Oui, je suis allée voir la toute nouvelle exposition en salle depuis vendredi.
Oui, la vernissage était vendredi, je crois, vers 17h ou 19h, quelque chose comme ça.
Oui, ben c'est ça. C'était la grande journée des vernissages des centres d'artistes. Et moi, j'étais attirée, enfin, par le titre « Blue Suede Drone », une exposition installative de David No, donc « La visite de France ». En fait, il est originaire français, mais on me dit qu'il vit depuis 10 ans à Bruxelles, donc en Belgique. Et c'est quelqu'un qui, moi je ne le connaissais pas au
plus avant. Non, non, je ne le connais pas.
OK, ben on aurait pu, peut-être que des gens, les habitués du lieu, l'ont peut-être croisé dans le cadre d'événements performatifs ou je crois que c'est dans le coin de 2007, il y avait eu une installation sonore qui était venue. Okay. En fait, c'est ce que je m'étais informée pour savoir si c'était sa première fois. S'il est venu, cette fois-là, je n'ai pas eu la chance d'aller au vernissage, mais si cette fois-là j'étais allée, j'aurais rencontré l'artiste. Bon, mais je l'ai manqué. Donc, il est venu faire son installation. Et c'est vraiment un artiste qui est en lien avec la performance, l'art audio, le sonore et c'est un scénographe aussi. Donc, la vidéo. Là, je dirais que c'est vraiment une installation vidéo qu'il nous propose cette fois-ci. Je m'attendais à avoir un peu de son, mais il a décidé de ne pas mettre le son dans...
OK, donc c'est silence.
Ben, non, en fait, il y a quand même un fond sonore par les ventilateurs, des projecteurs, parce qu'il y a quand même 7 moniteurs dans la salle et deux très grands écrans, deux plus grands écrans, puis d'autres plus petits. Puis je dirais que c'est vraiment aussi, donc tu as les écrans, mais tu as aussi deux zones installatives là, qui se répondent aussi. Je vais essayer de décrire ce qu'il en est. En fait, c'est pas complexe. On le voit bien par le carton aussi d'invitation, les images de nature. On a des belles fleurs. C'est un des écrans, des très grands écrans, où on voit justement une espèce d'image macro d'une fleur. Puis ça bouge. Hein? On a l'impression que le vent est dans ça. Et c'est dynamique malgré le fait qu'on
est sur une image fixe.
Sur une image fixe, exactement. Et c'est un peu l'idée, c'est de simuler, je te dirais, une espèce de documentaire naturel là, sur. Je pensais à macrocosme, tu sais, une année. À tout bout de champ, parce que ça vibre puis se passe de quoi. J'avais l'impression que je vais les insectes se mettent à s'animer, mais il n'y a aucune forme à part du vivant à partir de l'insecte. Le seul vivant, c'est le végétal. Et il y a comme un dialogue entre le végétal et le minéral. L'autre écran, c'est une espèce de on voit de la terre en ébullition, je dirais, une espèce de terre qui, comme si on a une force. Enfin, qui... Non, c'est okay. Sec. Vraiment sec. C'est comme, on aurait... Ouais, c'est vraiment un effet de terre. Oui, puis... Il y a un traitement de l'image aussi. C'est pas la couleur, est pas, c'est plutôt bleu que brun. Mais tu sais, à un moment donné, tu es dans le minéral. C'est un peu ce qu'il veut suggérer à travers ça. Et dans le fond, ces autres moniteurs vont reprendre un peu soit les images minérales ou là, encore les images végétales. Pas toujours au même moment, là, c'est pas la même répétition. Avec le végétal aussi, à un certain moment, ça bouge. Il a mis ses fleurs puis tout ce qu'il filme sur une espèce de plaque vibratoire. On sent qu'il y a une vibration.
Okay.
Puis à un certain moment, on voit des espèces comme des larves. On dirait des œufs de mouche, là, tu sais, des espèces d'affaires blancs que tu dirais « oh, oh ».
Ouf.
Mais finalement, heureusement, on m'a dit, moi, qu'il n'y aura rien qui va éclore de ça. Là, comme je vous ai dit, j'ai attendu. Il n'y a pas d'insectes. C'est du riz. En fait,
okay.
Il va simuler, dans le fond, c'est vraiment un simulacre de documentaire, un simulacre de
milieu naturel.
Oui, c'est ça, de milieu naturel. Puis, dans le fond, il nous donne à voir en gros plan, dans le fond, ce que l'œil ne perçoit pas. C'est comme on a l'impression du développement de la vie aussi. C'est un peu le référent qu'on pourrait imaginer. Ce qui est intéressant, c'est que ces écrans-là ne sont pas tout nus. Ils sont accompagnés d'une installation, d'une espèce de bric-à-brac, je dirais, dans le sens que, dans un premier temps, tu as des tiges d'aluminium qui sortent du plancher dans la zone minérale, si on veut, mon écran de fleurs. Et de l'autre côté, tu as une espèce de structure comme... tu as des tiges de branchages qui partent du plancher, puis là, que ça... Et ça vient comme un peu entourer une espèce de plateforme qui est complètement recouverte de papier d'aluminium, elle aussi. Puis quand tu te rapproches, c'est une structure en bambou.
Okay.
Alors, on a deux. Donc, l'espace est occupé. Puis, c'était justement, l'aluminium réfère à l'aspect minéral.
Ben ouais,
et les branches
ça.
Reviennent au végétal.
Donc, c'est vraiment un entrecroisement,
oui,
puis un dialogue.
Il y a un dialogue, exactement, entre l'image, entre l'installation. Puis, à travers ça, il y a comme la projection là, sur l'espèce de plateforme dont je parlais. Il a mis une série d'objets proches de l'écran, des objets quotidiens, une petite puise métallique là, pour aller chercher dans le bouillon à fondu, un morceau de bambou. En fait, tout ça en carton, vraiment. On a l'impression que c'est avec des rebuts là, qu'il va travailler ou des objets du quotidien trouvés. Mais quand tu regardes la silhouette, l'ombre que ça fait, on a un paysage un peu urbain d'une ville. Puis c'est une espèce de filet, mais ça fait une géode. C'est comme à Expo Québec, là, une espèce de sphère ronde. Puis son petit bout de bambou, ça ressemble finalement de... Moi, ça m'a évoqué une tour là, nucléaire, là, de centrale nucléaire.
Wow.
Puis là, finalement, à un moment donné, je me suis mis à voir les images autrement. Puis là, ça s'est mis à évoquer autre chose.
Une latence, un danger imminent.
Ouais,
oui,
oui, d'une certaine manière. Puis donc, de ce côté-là, c'est ce que je ressentais. Du côté végétal, il y a au plancher une espèce de toile bleue qui simule un peu une tente. Quand on regarde dans la tente, on voit des déchets, de la terre, mais beaucoup un bric-à-brac, un amoncellement de déchets. Il a mis une petite caméra qui filme, puis en direct, puis à côté, tu as l'écran. Puis quand tu regardes dans l'écran, c'est tellement beau, on dirait une montagne sur un fond bleu, parce que sa toile est bleue. Alors, c'est carrément l'image distorsionnée là, qui a fait passer à travers une espèce de grosse boule qui difforme l'image, mais c'est plus des déchets, on voit plus des déchets, on est face à un paysage. Fait qu'on a, en tout cas, c'est assez intéressant comme jeu, tu sais, une espèce de pittoresque, une petite image, là, ça fait comme, ça tient lieu du septième écran, là, il est un peu à part. Et il y a vraiment une valeur poétique dans cette installation. Ce qui ressort aussi, c'est le côté, c'est toutes ces allusions-là, mais c'est le côté low-tech. Tout est fait, tu sais, en low-tech. Quand je lisais au début, je voyais ça, Blue Suede Drone, là, je me suis dit un drone, espèce d'avion de reconnaissance là, qui sont téléguidés. Puis là, je me suis imaginé que ce serait quelque chose de high-tech. Alors, le contraste a été assez grand et j'ai eu la chance de remarquer, de me faire accueillir et présenter l'exposition par quelqu'un du lieu. Patrick Dubé m'a vraiment accueilli, m'a aidé à bien repérer tout ça. C'était vraiment merci à l'accueil. Et je m'en allais. En fait, ce qu'on référait, c'est que justement, c'est low-tech et ça fait un contraste avec le moi multi, qui est très, très, très high-tech. Alors, j'ai même pensé à un certain moment que c'était dans le cadre de, mais non, c'est juste un addon, un heureux addon pour célébrer le multimédia et le high-tech, low-tech.
T'as apprécié?
Vraiment, vraiment. J'espère que ça paraît. Vraiment, oui, j'ai aimé tous ces jeux à découvrir l'expo. Oui, j'encourage. Ah, puis une autre chose qu'il faudrait dire, ce que je n'ai pas pu apprécier, c'est que le soir venu, Donc, quand on marche sur la rue du
on
Pont...
On voit l'écran, c'est ça?
On peut voir l'écran. Pas de jour, parce que là, ils vont tendre un rideau, mais il semblerait que c'est assez intéressant. Donc, toute cette imagerie de fleurs que vous pouvez voir, dans les... c'est en lien avec cette expo de David Nau.
Ben oui, je l'avais vu justement vendredi dernier en passant en face, puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Tu parlais des grains de riz. Je me disais, est-ce que c'est des asticots? Ça bouge pas, donc vois-tu, j'ai eu ce questionnement-là.
Oui, mais là, c'est ça.
En passant dans la rue.
Il faut le savoir, là, c'est grâce à l'intervention là, des personnes, là, parce qu'on nous laisse un peu deviner, là, bien sûr. Mais vraiment, ne vous gênez pas pour rentrer, aller voir cette installation.
Ben voilà, David Nau, Bleu Suède de Drone, s'est présenté jusqu'au 11 mars. Catherine Boivin, merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Puis on se revoit dans environ un mois.
Exact.
On s'en va en pause, on écoute Girl avec plein de L et ensuite on discute avec Jean-Pierre Gay. D'entendre un extrait de la pièce Girl, c'est une suggestion de Simon Roy, c'est tiré de l'album Exit Sight d'ABC 100. Vous pouvez trouver les informations sur l'album, même trouver le lien pour télécharger gratuitement cet album sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, l'émission est en balado-diffusion, puis vous pouvez trouver les liens de la revue de presse de Raymond Poirier. Puis je vous invite aussi, pourquoi pas, à devenir, à aimer l'aérospatiale sur Facebook. Donc, vous allez être tenu au courant des menus d'émission et tout ça. Et là, on vient de l'entendre rire. Je l'introduis dès maintenant. Jean-Pierre Gay, bonjour.
Bonjour. Ben oui, là j'ai un petit... j'ai un petit spleen aujourd'hui parce que quand la deuxième vague du mois multi s'en va vers la fin, c'est comme une grosse perte pour moi. Ça fait depuis 2001 que je fréquente le mois multi, et c'est une belle occasion pour nous de grandir, d'évoluer. C'est peut-être la culture la plus flayée qu'il y a à Québec. Donc, de sortir de nos sens, de nos zones de confort, et de s'exposer à des œuvres qui sont troublantes, qui sont dérangeantes,
qui nous confrontent,
et qui sont pas dans le classique standard. Puis là, ben c'est sûr que on s'en va vers la fin. Il reste deux semaines, il reste des installations, il n'y a plus de spectacle.
Mais on est le 21, ça se termine le 29.
Donc il ne reste même pas deux semaines. Mais je veux, avant de dire quoi que ce soit sur les installations qui restent là, je veux dire un mot à l'équipe. Cette année, le mois multi, c'était pratiquement tout du nouveau monde qui s'est retrouvé à la tête du mois multi. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté Émile Morin, Ariane Plante, Sonny Breuil. Et c'est toute une nouvelle équipe qui a pris le mois multi, incluant Viviane Paradis, qui a eu à faire la nouvelle programmation.
Compté de septembre.
Fait que ça, c'est chapeau, parce que ils ont relevé le défi d'amener encore là des œuvres originales, inédites, troublantes, puis tout ça. Mais Viviane a aussi amené ses fameuses nuits numériques, qui est une belle sortie sur la rue, d'amener l'art dans la rue. Ça, faut saluer.
De happer le passant, puis de le faire rentrer dans le centre d'artistes.
Moi, j'ai trouvé que il faut saluer ça. Moi, ces initiatives-là, pour moi, c'est important de rapprocher l'art du public, mais ça en est une belle. Bon, donc, félicitations Viviane et toute sa gang. Maintenant, il reste encore, tu le disais, Julie, il reste encore des installations. Il y en a cinq. On va commencer par parler de celle qui est dans le hall d'entrée en bas, qui s'appelle Mirror Peace. Dans la foulée du 11 septembre, les systèmes de sécurité se sont développés pour checker toutes sortes d'affaires.
Ouais.
Et là, il y a entre autres des logiciels qui font des associations, un peu comme des portraits robots.
De la reconnaissance faciale.
Donc, on est face à un miroir comme ça et qui prend notre photo et qui associe ça avec un personnage. Ça peut être des bandits, ça peut être des violeurs d'enfants, ça peut être toutes sortes de...
Travestis.
Dans l'univers, assez glauque comme univers. Fait que moi, je me suis retrouvé associé à un réalisateur de cinéma. J'étais associé à un lutteur sumo.
Ah ouais, mon Dieu!
Et ça, c'est assez troublant de voir comment des machines comme ça, ça peut associer du monde. Tu sais, c'est un peu comme dans le soleil. Ils ont été séparés à la naissance. On voit ça dans les soleils du samedi, où tu as deux personnes qui se ressemblent, puis bon. Alors, il y a quand même des associations qui sont faites, puis il y a des logiciels comme ça qui existent. Lui, il détourne ça un peu en caricaturant. Donc, c'est une œuvre qui est encore là, c'est gratuit.
Et c'est surprenant, en fait, parce que le propos est assez sérieux, mais finalement, c'est un caractère quand même ludique.
Ludique.
Puis quasiment stressant, parce que moi, j'ai été associée, je ne rappelle pas son nom, fondateur du journaliste Gonzo, à un énorme travesti. Là, tu te regardes, tu dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va sortir de là?
Mais moi, ce qui était drôle, c'est que j'avais Mathieu du mois multi, donc il ne m'a pas reconnu. Il essayait de chercher quelque chose, il manquait une partie du visage, donc il était incapable de bretonner.
Ah ouais?
Et quand je portais mes lunettes, c'était la même chose. Mes lunettes sont noires, blanc, noir, blanc, noir, blanc.
Ah, fait que ça vient, mais
je réussissais pas à m'identifier. C'est quand j'ai enlevé tout ça que là, ça a marché. Donc, première expérience assez troublante, puis rigolote en même temps. Deuxième, dans une des deux salles, on est encore dans ces systèmes de qui sont associés aux suites du mois du 11 septembre. Ça s'appelle In the Line of Sight. C'est un duo de créateurs des États-Unis. Eux, ils partent d'un moniteur, comme les moniteurs que tu retrouves dans des salles de contrôle d'aéroports, qui checkent les mouvements des gens qui se promènent dans les aéroports. Et qui checkent, ils tentent surtout de décider les gens qui ont des mouvements suspects. Par exemple, il y a tout un déplacement de gens qui s'en vont vers un avion, vers l'avion, en fait. Et il y a quelqu'un qui quitte ce groupe-là puis qui s'en va. Là, oups, tout de suite, les gens de sécurité, ça leur dit, hein, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui va faire un mauvais coup. Bon. Alors, c'est là-dessus qu'ils jouent, eux autres. Ils jouent avec une image, donc, qu'on voit en entrant, qui est une femme qui fait des curieux mouvements, une danseuse qui fait des curieux mouvements de danse, et dont l'image est pixelisée, il y a 100 pixels qui sont rattachés à 100 lampes de poche. Qui ressemblent à des petits micros. Mais ce n'est pas des micros, c'est des lampes de poche, comme des lampes de poche de policiers quand ils font des patrouilles ou des agents de sécurité. Ces 100 lampes-là projettent sur l'écran les mouvements de la jeune fille et ça devient très flou. On ne sait plus trop ce qu'on voit. Donc, c'est tout un discours sur le flou et le peu de valeur que ces systèmes-là ont. Donc, c'est intéressant. Il y a aussi, dans cette même salle, un travail d'Emmanuel Madan, qui est aussi un artiste en art audio. Et lui, il travaille sur les ondes électromagnétiques. Tu sais, les ondes électromagnétiques, il y en a partout. Hein? On les sent pas. Mais il a réussi à les amplifier. Et quand on arrive dans son système, il y a des barres sur les côtés, des barres comme des barres de danseuse, quasiment. Là. Pas de danseuse, de...
De ballet.
De ballet, dans l'autre sens, les barres. Et tout ça vibre. Donc, il réussit à rendre... perceptible ces ondes électromagnétiques qu'on ne perçoit pas habituellement. Donc, il y a cette exposition-là aussi.
C'est conscientisant quand même. Hein?
Oui. Dans l'autre salle, ça, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est deux artistes. Herman Colgan, un artiste en art audio qu'on a vu l'année passée avec l'Orchestre symphonique de Québec, et Magali Babin, qui travaille habituellement des petits sons très, très, très précis. Ils ont tous décomposé une batterie. Et on se retrouve avec trois gros instruments circulaires, un qui est fait en bois, l'autre qui est fait en métal, puis l'autre qui est fait en peau. Herman, c'est un drummer. Donc, flèche, métal et wood, c'est les trois éléments. Et tout ça est relié à soit une carte topographique de la ville de Québec, ou encore des captations dans l'eau qu'ils ont faites, ou encore divers sons de la ville de Québec, parce que leur œuvre communique avec la ville de Québec. Et tout ça joue tout seul, ils font des performances en concert, mais tout ça peut jouer tout seul aussi. C'est des très beaux objets, et c'est assez déroutant comme show sonore.
Effectivement, donc, là, c'est...
Mais ça vaut vraiment la peine d'aller. Il y a une finesse de jeu, d'exécution, de rendu de ces œuvres-là.
Puis dans les sons aussi, là, ça scelle en métal. Là, des fois, c'est comme un petit crissement là, qui est à la limite d'être désagréable, mais on continue, on reste parce qu'il y a quelque chose d'envoûtant aussi dans tout
oui,
ça.
Oui, puis quand les morceaux de bois bougent, tu as l'impression d'entendre de l'eau.
Ben oui, comme des bâtons de pluie.
Comme des bâtons de pluie. Non, vraiment. Donc, tout ça est là jusqu'à la fin du mois de multi. Et il y a aussi à la bande vidéo, l'exposition de Julien Maire, qui lui réussit à faire voir avec un dispositif assez...
C'est incroyable! Hein?
Incroyable! C'est très savant comme système, là. Il réussit à nous faire voir la création d'une œuvre en trois dimensions, en 3D, avec un jeu de miroir, de caméra, des
de cubes qui avancent,
c'est vraiment un système ingénieux qu'il faut aller voir, puis il y a des images assez poétiques qui sortent de ça.
Ouais, puis on a l'impression que ça glisse de côté, que ça joue vraiment sur la profondeur. Ouais. Il y a de quoi se perdre un peu là-dedans aussi. Là.
Oui. Donc, tout ça est encore là jusqu'à la fin du mois de février. C'est là tous les jours de midi à 18h, sauf à la bande vidéo à partir du mercredi.
Voilà. Ben Jean-Pierre, merci beaucoup.
Ça me fait beaucoup plaisir, toujours.
Puis, on est bien content de profiter de la journée de février supplémentaire cette année pour aller au mois midi.
En passant, vous pourrez entendre à l'émission La Croche-Oreille, Magali Babin, Herman Coleman, tout ce beau monde-là vont passer à la bande.
C'est dimanche
à 11h.
Dimanche à 11h.
On aura un blog bientôt là, qui va, bon, toutes nos émissions vont être archivées.
On l'attend avec impatience. De notre côté, on s'en va en courte pause audio. On écoute Hip sur les ondes de CKRL. Simon Roy nous avait dit en début d'émission que l'album Excite d'ABC 100, ça lui avait mis le sourire. Ben, je le dis encore, je comprends tout à fait pourquoi. Quelle bonne... Quel bonheur d'ambiance, disons, pour une journée telle que celle-ci. L'émission tire déjà à sa fin. Avant de terminer, je vous convie à quelques événements. Vous savez comment ça bouge en art visuel à Québec, notamment mercredi, demain, en fait, à 19h30, le Musée national des beaux-arts du Québec présente une conférence autour de l'exposition Mode et apparence dans l'art québécois, conférence qui sera donnée par la co-commissaire Véronique Borboen. Jeudi, à 17h, c'est le vernissage de l'exposition, ma foi, fort attendue de Mathieu Valade, qui est présentée à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Puis aussi, le 26 février, à 14h, une autre exposition quand même assez attendue, c'est l'exposition 3, qui est présentée à la Galerie Michel Guimond, qui présentera le travail de José Landry-Serrois, Paris Martin et Diane Landry. Je termine les invitations avec les 24 heures du logiciel libre qui auront lieu samedi et dimanche à la Chambre Blanche de midi, à midi finalement. Donc, où passionnés d'art et technologie vous feront vivre des expériences inédites à partir des jeux de votre enfance dans le but d'en découvrir le potentiel poétique, donc création de machinimas, pardon, séquences animées qui sont créées par des détournements et triturations de contenu de jeux vidéo. Bref, il y a toutes sortes de choses. C'est les 24 heures du logiciel libre à la Chambre Blanche en fin de semaine. Je remercie Jacques Gignac pour son travail de mise en onde et je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous laisse entre les mains de Gilles Chaumel et de Folk d'Amérique. Au revoir.